Shieldcast présente la revue de presse, thème du jour, histoire récente géopolitique, avec Clara et Sacha. Bonne écoute. Sacha, je veux qu'on commence par cet article de Terrestre sur l'Holocène, parce que c'est typiquement le genre de papier où je m'attends à du flou et où je trouve en fait un travail très propre. Pierre de Jouvencourt revient sur la scène fondatrice de l'Anthropocène, le colloque de Cuernavaca en 2000 et l'exclamation de Crutzen.
Oui. On connaît la petite histoire. Le nom, nous ne sommes plus dans l'Holocène. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce troisième volet, c'est qu'il replace Crutzen dans sa trajectoire. Le type qui a bossé sur les CFC, sur l'hiver nucléaire, et qui arrive au concept d'anthropocène saturé d'angoisse sur l'habitabilité planétaire. Ce n'est pas un coup de génie isolé, c'est un aboutissement.
C'est ça le delta intéressant par rapport au récit habituel. On présente souvent l'anthropocène comme une rupture conceptuelle. L'article montre que c'est une cristallisation. Et il y a un point que je trouve sous-estimé dans le débat public, la stabilité de l'Holocène. 260 à 280 ppm sur 11 700 ans n'est pas un fait moyen, c'est une singularité. Les 70% d'augmentation en deux siècles, sur cette base-là, sortent de l'enveloppe de variation naturelle de plusieurs ordres de grandeur.
Et politiquement, ça change le cadre. Tant qu'on parle d'Holocène avec une perturbation, on bricole. Quand on dit anthropocène, on admet que le système économique a basculé la planète dans un autre régime. White le dit dans la citation d'ouverture, la question devient « Quels ancêtres voulons-nous être ?» Ce n'est pas un débat de stratigraphe.
Sur ce point, je serai plus prudente. La querelle stratigraphique compte parce que la Commission internationale a refusé en 2024 de formaliser l'anthropocène comme époque géologique. Ça ne disqualifie pas le concept politique, mais ça oblige à distinguer les deux usages. L'article fait bien ce travail.
Bon, transition naturelle vers le monde diplomatique, l'article de Papé sur les origines du nettoyage ethnique en Palestine. Là, on est dans l'histoire longue aussi, et c'est lumineux. Il documente le tournant du milieu des années 1920 dans le mouvement sioniste. On passe d'un projet de refuge à un projet de colonisation impliquant la dépossession.
Ce que j'apprends, et que je trouve techniquement précis, c'est le mécanisme foncier. Les réformes ottomanes du 19e avaient créé des propriétaires absentéistes, mais avec une coutume claire. Quand une parcelle se vend avec ses villageois et leurs droits d'usage. Les Britanniques, en 1920, suppriment ces protections et requalifient les paysans en cultivateurs à bail révocable.
Et c'est ce verrou juridique qui rend possible l'achat à grande échelle, comme les 32 500 hectares de l'American Zion Commonwealth dans la plaine de Marj Ibn Amr entre 1921 et 1925. Papé montre que la dépossession n'est pas un accident, c'est une infrastructure légale construite par la puissance mandataire.
Je pense que c'est important pour calibrer le débat actuel. Quand on entend que la question palestinienne commence en 1948 ou en 1967, l'article repousse l'origine d'au moins 20 ans et la situe dans une décision administrative britannique précise. Ce n'est pas un ajout polémique, c'est documenté.
Et ça démolit aussi l'idée d'un conflit symétrique de deux nationalismes. Il y a une asymétrie structurelle inscrite dans le droit foncier dès le départ. Pour un marxiste comme moi, c'est presque un cas d'école. La propriété précède et fabrique le rapport de force politique.
Passons au troisième, parce qu'il fait écho. L'humanité couvre l'adoption à l'Assemblée, à l'unanimité, de la loi cadre sur la restitution des œuvres pillées pendant la colonisation. Le Sénat doit valider jeudi 7 mai. C'est une loi qui permet de restituer par décret, sans plus avoir besoin d'une loi spécifique à chaque objet.
Sur le principe, victoire. En pratique, je suis très réservé. Les bornes temporelles 1815-72 excluent la conquête de l'Égypte, le premier empire, donc une partie massive du pillage. Et le mot « colonisation » est absent du texte. C'est une loi de restitution qui refuse de nommer ce qu'elle répare.
L'argument du gouvernement, porté par Catherine Pégard, c'est que cette neutralité lexicale permet l'unanimité. C'est un arbitrage défendable, un texte qui passe versus un texte qui nomme. Mais je note qu'à ce jour, il y a une dizaine de demandes seulement, et la mission de recherche de provenance des musées arrive sans budget dédié clair. La loi peut rester largement symbolique si les moyens ne suivent pas.
Et il y a le précédent. Promesse Macron 2017, 26 pièces rendues au Bénin en 2020, le tambour Gigi Ayokwe en 2026, et basta. 9 ans pour ça. La loi cadre est nécessaire, mais pas suffisante. L'extrême droite, elle, a essayé de conditionner les restitutions à la cordialité diplomatique, ce qui visait clairement l'Algérie qui demande les effets d'Abdelkader. Bien vu. Et choisir ce qu'on protège aussi. Couper à 1815, c'est protéger le butin égyptien du Louvre. C'est pas neutre.
On s'arrête là pour aujourd'hui. Trois textes qui valent le détour. Surtout le papé pour qui suit la séquence en cours.
Et le Jouvencourt, si vous avez 30 minutes devant vous, ça les vaut.